juste 7 heures ici dans nos studios à Paris, 5 heures en temps universel. Et un nouveau journal, bonjour Léa Boutin-Rivière.
Bonjour Gaëtan, bonjour à toutes et à tous.
Entre sanctions et temporisation, la communauté internationale sur le fil après les frappes iraniennes en Israël.
Les États-Unis ont annoncé des mesures hier contre les programmes de drones et de missiles de l'Iran. L'Union européenne semble s'engager sur la même voie. Dans le même temps, les appels à la retenue se multiplient après un nouvel échange de menaces hier entre Israël et Téhéran. Compterons avant les Jeux Olympiques de Paris. 100 jours seulement nous séparent de l'événement. 9 milliards d'euros déboursés pour l'organisation, c'est plus que prévu et pourtant moins que les précédentes éditions. Dans ce journal également, nouvelle opération sécuritaire à Mayotte face à des habitants désabusés. Et 10 ans après les promesses de Narendra Modi en Inde, les eaux du Gange toujours aussi sales.
Et une nouvelle flambée de tensions entre Israël et le Hezbollah après l'attaque de drones iraniens ce week-end.
Et pour cause, le parti chiite libanais est soutenu par Téhéran. Hier, des accrochages ont opposé le Hezbollah et l'État hébreu. 3 membres de la branche armée du groupe ont été tués dans des frappes israéliennes dans le sud libanais. Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, la région subit les affrontements quotidiens entre les deux ennemis. Et plus le temps passe, plus les frappes israéliennes touchent le sol libanais en profondeur. De quoi provoquer l'inquiétude de la population jusque dans la capitale Beyrouth, Sophie Guignon.
Les drones et les avions de chasse israéliens planent régulièrement dans le ciel de Beyrouth comme la promesse d'une menace. Depuis le 9 octobre 2023, Maïrig, couturière dans le quartier de Mar Michael, ne dort plus sur ses deux oreilles.
Je suis tout le temps stressée. La nuit, je ne dors pas bien. Je n'arrive pas à me détendre. Le moindre bruit me fait peur. Tout ça a des conséquences pour mon corps et ma santé.
Sans double nationalité ou visa, la plupart des Libanais savent qu'ils ne pourront pas quitter le pays si une guerre de grande ampleur éclate. Pragmatique, Joe Daou, coiffeur, sait où il ira se réfugier.
Il y a des régions qui sont sûres au Liban. Si on a peur des bombardements, on pourra y aller. Tout le Liban ne sera pas touché. Mais s'ils bombardent les infrastructures, est-ce qu'on a encore un État capable de reconstruire? Comment on vivra? C'est ça ma peur.
Avant une guerre dont personne ici ne veut, c'est bien la crise économique qui sévit depuis bientôt 5 ans qui arrive en tête des préoccupations. Eli Chalfoun gère une épicerie.
On cumule les problèmes. Quoi qu'il se passe, on n'aura plus de travail et les dépenses vont continuer à augmenter.
Alors que plus de 80% de la population vit dans la pauvreté à cause de l'effondrement économique, le Liban pourrait ne pas se relever d'un nouveau conflit. Sophie Guignon, Beyrouth RFI.
Les frappes aériennes lancées par l'Iran ce week-end ont une autre conséquence, la mise en place de mesures internationales destinées à affaiblir les capacités militaires de l'Iran. C'est explicitement l'objectif de nouvelles sanctions annoncées par les États-Unis ce mardi. Elles concernent particulièrement les programmes iraniens de drones et de missiles. L'Union européenne a dans la foulée indiqué envisager le même type de mesures. L'exportation de certains composants utilisés pour la fabrication de drones est déjà prohibée entre l'UE et Téhéran. Il serait à présent question d'étendre cette interdiction à d'autres types d'armements, dont les missiles. Surtout, les 27 appellent encore et toujours au calme et à la retenue, comme d'ailleurs une grande partie de la communauté internationale. C'est encore une fois le message qui devrait être envoyé aujourd'hui au cours d'un Conseil européen extraordinaire, Julien Chavanne.
De l'Élysée au couloir de l'hémicycle européen jusqu'au Conseil de l'Europe, les éléments de langage sont les mêmes. Condamner l'attaque iranienne, dénoncer un pas franchi dans la déstabilisation de la région. Pour cela, les 27 vont multiplier aujourd'hui et demain les appels à la retenue en direction de l'Iran, mais aussi vers Israël. Les dirigeants de l'Union rappelleront aussi leurs demandes sur Gaza, cessez-le-feu immédiat, libération des otages et aide humanitaire, des demandes restées lettres mortes pour l'instant. L'Ukraine sera aussi au menu dès leur arrivée ce soir avec encore et toujours les mêmes messages de soutien. Pas sûr que cela suffise à Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien interviendra par visio avant le dîner des 27 et il aura l'occasion de leur réclamer encore une fois plus d'armes alors que l'armée russe progresse sur le front Est. Un point sur les relations avec la Turquie et sur l'avenir du marché unique sont au programme, mais l'actualité internationale devrait encore une fois occuper tout l'espace.
Julien Chavanne.
Et on l'entendait, parmi les thèmes évoqués aujourd'hui et demain, il y aura la question question humanitaire à Gaza.
L'enclave palestinienne toujours sous les bombes. 46 personnes ont été tuées en 24 heures selon les autorités de santé du Hamas. L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, a par ailleurs dénoncé la présence de bombes de 450 kilos non explosées dans des écoles de l'enclave. Surtout, la situation alimentaire et sanitaire est de plus en plus chaotique. La population fait parfois la queue pendant des heures pour acheter une unique miche de pain. L'ONU a donc annoncé un prochain appel aux dons pour récolter 2,8 milliards de dollars à destination de Gaza, mais aussi de la Cisjordanie occupée.
Mais les Nations Unies qui sont aussi préoccupées, Léa, par la situation en Libye.
Préoccupées, mais surtout découragées. L'émissaire de l'ONU dans le pays, Abdoulaye Batili, a annoncé hier sa démission, moins de 2 ans après avoir été nommé à ce poste. Il devient donc, en 13 ans, le 9e envoyé spécial onusien en Libye à jeter l'éponge. En cause, dénonce-t-il, l'impossibilité d'agir en faveur du processus politique, entravé, selon lui, par l'égoïsme et l'opportunisme des dirigeants libyens, Ouda Ibrahim.
C'est à l'issue de la séance consacrée à la Libye devant le Conseil de sécurité que l'émissaire onusien Abdoulaye Batili a annoncé à la presse avoir remis sa démission au secrétaire général Antonio Guterres. Déçu et découragé, il a dressé un tableau sombre de la situation en Libye, pays déchiré et divisé depuis 2011. La MANUL, la mission d'aide des Nations Unies en Libye, a fait beaucoup d'efforts sous ma direction, mais ces derniers mois, a-t-il précisé, la situation s'est dégradée. Devant le Conseil de sécurité, il a dénoncé le manque de volonté politique de bonne foi chez les dirigeants libyens. Abdoulaye Batili a également pointé des dirigeants égoïstes qui s'accrochent au pouvoir et maintiennent le statu quo. C'est très triste parce qu'en Libye aujourd'hui, l'essentiel de la population veut sortir de cette galère. Fin de citation. Avant sa démission, il a annoncé le report sine die de la conférence nationale de réconciliation qui devait se tenir à Sirte le 28 avril. Il est décourageant de voir des individus en position de pouvoir mettre leurs intérêts personnels au-dessus des besoins de leur pays, a lancé Abdoulaye Batili, partageant son profond sentiment de déception.
Ouda Ibrahim. Le corps des femmes et des filles, véritable champ de bataille politique, cri d'alarme lancé par les Nations Unies encore ce mercredi, qui s'inquiète que les avancées récentes en matière de droits sexuels et reproductifs stagnent, voire ralentissent. Ainsi, depuis 2016, la mortalité maternelle n'a pas reculé, elle a même progressé dans un certain nombre de pays. Et près de la moitié des femmes sont toujours privées du droit de prendre des décisions concernant leur propre corps, avec des disparités majeures, pointe l'ONU, en fonction de l'identité, de l'origine ou du niveau de vie.
7h07 à Paris, c'est un chiffre symbolique. Dans tout juste 100 jours, le coup d'envoi des Jeux Olympiques de Paris.
100 jours, c'est à peine plus de 3 mois. Dernière ligne droite donc pour les organisateurs, mais aussi pour les sportifs, pour qui les JO représentent l'achèvement de 4 ans, voire de toute une vie de préparation. Parmi eux, le français Joris Daudet, double champion du monde de BMX Racing. Il s'apprête à disputer ses 3e Jeux et cela vient vite.
On a l'impression à chaque fois que 3-4 ans c'est long, mais en fait ça arrive super vite, les préparations, les qualifications olympiques et tout ça qui passe super vite. J-100, ouais, ça nous met un coup de taquet. Après, je pense que J-30, ça sera encore un peu plus. L'entraînement est encore présent, le gros entraînement est encore présent, donc on continue sur notre lancée et sur ce qu'on a planifié. Mais ouais, J-100, ça veut quand même dire 3 mois, donc on s'en rapproche.
Joris Daudet, qui pourrait aussi être le porte-drapeau français, il a officiellement déposé sa candidature. Les festivités, les préparatifs, les salaires des forces de l'ordre, la logistique, tout cela a un coût. Et comme souvent pour les JO, la facture est un peu plus salée qu'escomptée. À l'heure actuelle, le budget flirte avec les 9 milliards d'euros, 2 milliards de plus que les premières estimations. Et pourtant, ces jeux pourraient figurer parmi les moins chers de l'histoire récente, Nicolas Feldman.
D'un côté, il y a le budget dédié à l'organisation même des Jeux Olympiques. Qu'il s'agisse de payer les agents de sécurité ou bien de louer le Stade de France, ce budget est en hausse de près d'un milliard d'euros. Le comité d'organisation des Jeux, le COJO, presque intégralement financé par des fonds privés, explique ce surcoût par l'inflation. Des surcoûts aussi pour l'autre budget de Paris 2024, celui de la Solideo, la société chargée de livrer les sites des compétitions et financée pour moitié par le public. Au total, cela fait près de 2 milliards d'euros de plus que prévu. Une facture en hausse de 15%, mais qui reste plutôt maîtrisée d'après Christophe Lepetit du Centre de droit et d'économie du sport.
Le budget global des Jeux, il est plutôt tenu. Ça fait des Jeux de Paris, effectivement, qui sont plutôt dans la fourchette basse quand on en compare Rio à Pékin ou à d'autres éditions passées. Et pourquoi on observe ça? Tout simplement parce que l'un des arguments de la candidature qui était d'avoir peu d'infrastructures à construire, c'est vérifié. Et donc c'est souvent là que se déroulent les explosions budgétaires.
Mais d'après l'économiste, plusieurs dépenses publiques ne figurent pour le moment pas dans le budget des Jeux Olympiques. C'est le cas des forces de l'ordre qui seront mobilisées ou bien de ces espaces installés pour les fans. La Cour des comptes doit publier un rapport sur le coût total des Jeux Olympiques d'ici l'automne 2025.
Et à titre de comparaison, les Jeux de Rio en 2016 avaient coûté plus de 13 milliards de dollars contre les 9 prévus. Ceux de Tokyo en 2020 avaient coûté plus de 2 fois la facture envisagée, c'est-à-dire plus de 10 milliards et demi de dollars déboursés. Parmi les coûts importants de ces Jeux, donc le renforcement de la sécurité. La sécurité, c'est aussi la priorité affichée du gouvernement à Mayotte, où une importante opération a démarré hier. 1700 forces de l'ordre déployées pendant 11 semaines pour arrêter un certain nombre de chefs criminels et détruire des logements insalubres. Sauf qu'il y a un an, l'intervention Wambushu du même acabit a été organisée et les Mahorais en cherchent encore les fruits, Pierre-Olivier.
Avec cette opération Place Nette, les Mahorais craignent à nouveau des promesses mais peu de résultats. Il faut dire qu'en 2023, l'opération Wambushu leur a laissé un goût amer avec moins d'expulsions d'étrangers en situation irrégulière qu'en 2022 et une insécurité pas franchement jugulée. Faoulati Sandi est membre de l'association Nous Tous.
On subit la violence matin, midi, soir. J'avais vraiment espoir que ça allait changer quelque chose. C'est de la communication pure et simple. Il n'y a rien qui a changé.
En février dernier, excédé, le mouvement des forces vives a bloqué les routes principales de l'île pour demander à l'État d'agir contre l'immigration irrégulière jugée responsable de l'insécurité. Cette opération Place Nette et ses 1700 policiers et gendarmes mobilisés ne suffira pas pour Kamardine Youssouf, membre des forces vives.
Il faudra que l'État français s'assoie sur la même table et faire les choses avec les Mahorais ensemble. Mais il ne peut pas arriver de là-haut, arriver ici, se dire qu'ils connaissent le pavé et ils font comme bon leur semble, et à chaque fois ça échoue.
Les forces vives ne se font aucune illusion sur cette nouvelle opération, disent-elles, et préviennent que s'il le faut, elles bloqueront à nouveau les routes pour obtenir plus de renforts de l'État.
Pierre-Olivier.
Des élections à venir en Inde, plus que 2 jours avant le début des législatives.
Le Premier ministre Narendra Modi joue sa reconduction à son poste. Sa campagne se concentre tout particulièrement sur l'Uttar Pradesh, son berceau électoral. À Benares, vu comme la capitale spirituelle de cet État et même du pays tout entier, se pose la question de la qualité de l'eau du Gange, car non seulement le fleuve est sacré, il avait été l'objet d'une promesse du Premier ministre, celle de rendre le fleuve propre, objectif ambitieux, puisqu'en 2018, on estimait que le Gange recevait 3 milliards de litres d'eau usée par jour, 3000 fois plus que ce que recommande l'Organisation mondiale de la santé. 5 ans plus tard, le compte n'y est toujours pas, Cléa Broadhurst.
Nettoyer le Gange, c'était une longue promesse de Narendra Modi. Aujourd'hui, le docteur Vishwambar Nath Mishra, de l'Institut de technologie de Benares, estime que le fleuve est dans un pire état qu'il y a 10 ans.
Des gens prennent des bains par respect, d'autres sirotent l'eau dans laquelle se trouvent des matières fécales. Vous trouvez ça tolérable? Cela entraîne des maladies de la peau, le choléra, la diarrhée.
Il serait possible de nettoyer le fleuve si les moyens à cet effet étaient réellement mis en place, selon lui.
Il faut intercepter les sources qui déversent les eaux usées brutes dans la rivière, puis il faut les détourner avant d'atteindre le fleuve et les traiter jusqu'à ce qu'elles puissent être réutilisées. Ils n'ont pas mis en place ce système correctement.
Pour un grand nombre d'habitués comme pratique et qui s'y baignent tous les jours, peu importe la propreté du Gange.
Pour nous, il ne s'agit pas de savoir si l'eau est propre ou pas. Nous respectons le Gange comme une mer. Se baigner dans l'eau sainte, c'est une autre expérience. On se baigne et on ne craint rien.
Chaque jour, 50 000 personnes viennent se plonger dans le fleuve le plus sacré d'Inde. Cléa Broadhurst, Benares, RFI.
Quant aux législatives en Croatie, c'est en ce moment même, les bureaux de vote sont en train d'ouvrir pour accueillir jusqu'à 17h, temps universel, les quelques 3 700 000 électeurs du pays, appelés à choisir leurs 151 députés. Scrutin aux aires de duel entre le parti au pouvoir, le HDZ conservateur, et le camp présidentiel avec sa formation, le Parti social-démocrate. Le HDZ est annoncé en tête par les sondages, mais avec un score insuffisant pour obtenir la majorité au Parlement.
Allez, on dit que la musique adoucit les mœurs, et bien elle ensoleille aussi les réveils.
Et c'est pour cela que, pour terminer cette édition, RFI part à la découverte du dernier album de Thomas de Pourquery, musicien français spécialiste du saxophone, mais qui excelle aussi au chant et à la composition. Après s'être fait connaître par le jazz, après être passé par la pop, puis le rap, après avoir collaboré avec des artistes allant de Métronomie à Oxmo Puccino, Thomas de Pourquery signe pour la première fois un album 100% solo, Edmond Sadaka.
Thomas de Pourquery mène depuis une bonne vingtaine d'années un parcours très singulier. Après avoir découvert le saxophone à l'adolescence, il intègre des formations prestigieuses comme l'Orchestre National de Jazz et il remporte 2 victoires du jazz en l'espace de quelques années. Mais au fil du temps, ce grand gaillard à la stature de rugbyman n'a jamais pu se cantonner à un style. Ce disque le prouve une fois de plus. Les harmonies jazz y sont un peu mises de côté au profit de rythmiques pop et électro et au profit surtout de la voix. Thomas de Pourquery.
Je chante dans mes projets depuis toujours et j'ai eu la chance d'interpréter Nougaro, Queen, David Bowie avec des groupes et des vrais projets. Donc je me suis délecté de ces illustres mentors. Il fallait que ça sorte un jour sous la forme d'un album.
Pour ce disque, Thomas de Pourquery s'est adjoint les services du producteur et guitariste Yodelis, autre artiste aux multiples talents. Le résultat, c'est un disque solaire où le saxophoniste-chanteur promène sa voix avec une liberté jubilatoire.
L'album Let the Monster Fall, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Thomas de Pourquery se produit par ailleurs en France avec de nombreuses dates jusqu'au mois de juillet.
Merci Léa Boutin-Rivière. On vous retrouve à 9h, heure de Paris, pour un nouveau journal. Nous, dans RFI Matin, on est ensemble jusqu'à 10h. J-100 avant le coup d'envoi des Jeux Olympiques de Paris. La presse française s'en fait largement l'écho ce matin. On va vous faire un petit tour des unes dans un instant. Et puis on va vous emmener aussi au Grand Palais qui accueillera les épreuves d'escrime et de taekwondo. Les travaux sont en train de s'achever. Mais d'abord pour la une en Asie ce matin, on part en Malaisie qui vient d'ordonner à Meta, la maison mère de Facebook, et à TikTok aussi de lutter contre les contenus dits préjudiciables dans un contexte marqué par diverses polémiques religieuses. Les deux entreprises ont notamment assisté à une réunion la semaine dernière avec le ministre malaisien des communications. On est en ligne avec notre correspondante en Malaisie, Juliette Pietraszewski. Bonjour Juliette.
Bonjour Gaëtan, bonjour à tous.
Alors derrière ces discussions avec Meta et TikTok, le gouvernement malaisien assure se montrer soucieux vis-à-vis de messages qu'il juge problématiques.
Oui, il a même demandé aux deux groupes de présenter des plans pour lutter contre ces fameux messages. Alors de quels messages s'agit-il précisément ? On parle en fait de messages en lien avec les 3 R, si l'on suit l'expression utilisée par les Malaisiens. Ce sont les messages liés, je cite, à la race, à la religion et à la royauté, des sujets sensibles dans cette monarchie fédérale parlementaire. Pour rappel, Gaëtan, ici en Malaisie, votre religion peut apparaître sur certains papiers d'identité et les autorités et l'administration utilisent par ailleurs le mot « race » pour distinguer les communautés formant la population. Un mot qui est même intégré dans la constitution malaisienne. Dans le pays, on sépare ainsi les Malaisiens en 3 communautés principales. D'abord, les Malais de confession musulmane, on les appelle aussi les Bumiputras, qui signifie les fils de la terre, autrement dit les populations natives. Ils représentent plus de 60% de la population. On a ensuite les Malaisiens chinois et enfin les Malaisiens indiens. Les messages offensants liés aux 3 R seraient donc plus nombreux qu'auparavant en ligne, si l'on en croit le gouvernement malaisien.
Mais Juliette, quels sont les chiffres avancés par le gouvernement pour ces messages jugés problématiques sur les réseaux ?
Alors, il parle de 50 000 cas sur divers réseaux sociaux.
Juliette Pietraszewski.
Au cours du premier semestre 2024, à titre de comparaison, le nombre de cas pour l'intégralité de l'année 2023 était d'environ 43 000 selon les autorités.
Sauf que des critiques affirment que le Premier ministre Anwar Ibrahim, arrivé au pouvoir en 2022, élargit la censure.
Oui, des critiques affirment également que l'administration danoise est sur une pente glissante vers une perte de liberté, dont l'objectif serait d'apaiser un bloc de conservateurs qui s'est tourné vers l'opposition. Précédemment, le gouvernement malaisien a également été critiqué pour avoir tenté de contrôler le contenu de concerts, de films. Maintenant, ce sont les réseaux sociaux, mais de son côté, l'État nie ces accusations. Toujours dans le contexte actuel, l'administration d'Anwar Ibrahim fait face à plusieurs controverses religieuses en ce moment. Dernière en date, une énorme polémique sur la vente de chaussettes brodées avec le mot Allah. Des cocktails Molotov ont été lancés sur 3 points de vente de ces chaussettes. La police a également saisi plus de 1000 paires de chaussures dont le logo ressemblait également au mot Allah. De son côté, le roi de Malaisie a demandé aux politiques de combler les différences religieuses au lieu d'aggraver la division. Avec cette demande de contrôle des messages en ligne, le gouvernement assure vouloir garantir le droit d'expression des Malaisiens en garantissant une utilisation d'Internet harmonieuse et sûre pour tous. Fin de citation. Pas sûr que cette explication soit suffisante pour calmer les critiques, Gaëtan.
Merci Juliette Pietraszewski, correspondante de RFI en Malaisie. C'était la une en Asie ce matin sur RFI.
RFI Matin, Gaëtan Plenet.
On regarde ce qui occupe la une des quotidiens français ce matin. Le Proche-Orient à la une du journal La Croix, qui titre sur la Cisjordanie, les oubliés du conflit, peut-on lire en première page du quotidien, qui propose un reportage au sud de Naplouse, alors qu'Israël poursuit sa politique de colonisation. Israël, où la société est étonnamment impassible, ça c'est la une du Monde, qui l'affirme, l'attaque iranienne sur Israël ce week-end n'y a rien fait, les Israéliens vivent encore dans le présent du massacre du Hamas le 7 octobre dernier. Mais c'est surtout un autre sujet qui occupe les unes des quotidiens français ce matin, un sujet ou plutôt un décompte, 100 jours avant le début des Jeux Olympiques de Paris. Comment la France veut briller, titre l'Humanité. Briller, c'est ce que vont faire 100 Français qu'aujourd'hui en France met à l'honneur en première page des athlètes qui participeront bien sûr et d'autres qui seront en coulisses et qui ont déjà eu leur moment de gloire lors des précédentes éditions. Libération de son côté a décidé de faire dialoguer deux femmes ou plutôt deux générations. Sia Dembélé, 16 ans, membre de l'équipe de breakdance, ce seront bien sûr ses premiers jeux, et puis Mélina Robert-Michon, de 28 ans, son aînée, qui participera pour la 7e fois au lancer de disques. Elle compare, écrit Libé, leur rêve olympique, leur parcours et puis leur statut de femme aussi dans des disciplines dites masculines. L'équipe, de son côté, fait sa une sur le Paris Saint-Germain, qualifié miraculeusement pour les demi-finales de la Ligue des Champions après sa victoire 4-1 face au FC Barcelone en match retour. Des Parisiens porteurs de flamme, titre le quotidien français, qui va donc de son jeu de mots pour évoquer lui aussi les JO qui approchent dans 100 jours, 100 comme le nombre d'ailleurs de pages que l'équipe y consacre dans un supplément. 100 jours, donc, avant le 26 juillet, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Les travaux continuent. Ils sont même en train de s'achever sur l'un des sites emblématiques de la capitale française, le Grand Palais, qui sera lui-même mobilisé pendant la compétition puisqu'il accueillera les épreuves d'escrime et de taekwondo. La rénovation du lieu dure depuis 4 ans maintenant. Le monde entier va retrouver le Grand Palais et va le redécouvrir. C'est enthousiasmé le président français Emmanuel Macron, qui était en visite en début de semaine. Et bien, ce matin, c'est notre journaliste, Laurence Théo, qui nous propose une petite visite du chantier.
Il y a tout d'abord cette sensation d'être tout petit sous un gigantesque parapluie métallique. La nef est immense, sentiment partagé par Daniel Sancho, le directeur du projet de restauration du Grand Palais. Il porte casque et gilet de chantier et lève les yeux au ciel.
Un volume fou, on est à 35 mètres de hauteur sur les parties courantes, on monte jusqu'à 45 mètres en partie centrale, 13 000 mètres carrés. L'architecture industrielle, c'est vraiment l'usage du métal au maximum de ses capacités. Voilà, une charpente extrêmement élancée pour l'époque, c'est l'usage du rivet. Donc on a quelque chose d'extrêmement sophistiqué techniquement d'un point de vue industriel.
La charpente de fer pèse 6 000 tonnes, le poids de la tour Eiffel, et la verrière est la plus grande d'Europe. Créé en 1900 pour l'exposition universelle, le Grand Palais n'a cessé d'accueillir les grands événements. Dans les archives, le salon de l'auto.
Là, notre visiteur, parmi les moteurs, pourra faire d'utiles constatations sur les progrès de la technique française.
Grâce aux travaux, la nef a retrouvé sa grâce aérienne, la splendeur de sa dentelle métallique et la transparence de sa verrière. Un écrin olympique pour accueillir dans un premier temps les épreuves d'escrime. On ferme les yeux et on imagine.
On met en place le terrain de jeu au milieu, des gradins pour 8000 personnes. On a les espaces servants autour. Sous l'escalier d'honneur, il devrait y avoir la tribune des juges. On voit bien, si on a la dimension de cet espace, 13 000 mètres carrés par rapport aux attentes d'un grand événement sportif sont totalement cohérentes.
Seul petit écueil pour filmer l'escrime, il ne faut pas qu'il y ait trop de lumière. Il faudra donc l'atténuer avec un léger voilage tendu en sous-face de la charpente. L'escalier d'honneur, chef-d'œuvre de l'Art Nouveau, fera également partie du spectacle puisque les athlètes l'emprunteront lors des finales. Au cours de la rénovation, il a fallu retrouver sa couleur d'origine.
On fait les études classiques stratigraphiques, retrouver les traces pour aboutir à cette peinture-là qui est maintenant en place. Alors, comment la qualifier, marron, canon de fusil. C'est une peinture beaucoup plus sombre qui met vraiment en valeur les formes de l'escalier. On voit les reliefs apparaître, des volutes dans tous les sens, des fûts en porphyre, des éléments en bronze qui sont accrochés à ce porphyre, qui ont été restaurés aussi. Donc quelque chose d'extrêmement délicat. Voilà, l'ouvrage retrouve ses qualités d'origine, ses couleurs d'origine.
Dans quelques semaines, le cliquetis des fleurets remplacera le bruit des marteaux-piqueurs.
Un reportage de Laurence Théo à retrouver évidemment sur notre site internet rfi.fr, tout comme d'ailleurs nos autres reportages et chroniques.
RFI Matin.
Le retour de l'information, c'est dans 5 minutes avec le journal consacré à l'actualité africaine. Mais d'abord, de la musique, avec un petit coup d'œil à l'un des artistes présents dans la playlist RFI ce mois-ci. Une artiste en l'occurrence, Jane, originaire de Toulouse. À l'âge de 12 ans, elle a découvert la batterie synthétique au Congo-Brazzaville. Et elle s'en est beaucoup imprégnée, hein, de ses influences musicales locales, développant son goût pour les mélodies dansantes. Elle en a d'ailleurs fait l'étalage dans chacun de ses albums. On se souvient évidemment de Makeba, énorme succès planétaire, c'était en 2016. Il y a tout juste un an, elle a sorti un nouvel album, le troisième, The Fool, c'était le titre, avec notamment cette ode à l'onirisme Cosmic Love.
Lion love is like the sun, shining heart of everyone. Lion dreams of Venus arms, goddess hands, soft magic charm.
Jane et son titre Cosmic Love, extrait de son dernier album The Fool, c'est donc dans la playlist de RFI ce mois-ci. Merci d'être avec nous sur Radio France Internationale. L'actualité africaine revient dans une minute. A tout de suite.
Priorité santé. Raphaël Constant vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
infections urinaires, comment les éviter et les soigner?
Demain,
On fait le point sur la dengue, maladie transmise par le moustique tigre.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité Santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Ce mercredi sur RFI.
Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens. Frédéric Lebel.
Les élections législatives en Croatie vont-elles entraîner le pays sur la voie du populisme et d'un soutien sans réserve à Poutine ? Le président social-démocrate se rapproche des positions du président slovaque, un facteur de déstabilisation pour les Balkans.
Accent d'Europe, du lundi au jeudi à 19h10 TU sur RFI.